Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Vous êtes sur France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Dani.
Vous discutez avec Philippe Lecor, chercheur à la Brookings Institution et la Harvard Kennedy School. Votre sujet du jour, les nouvelles routes de la soie, un méga projet initié en 2013 par les présidents chinois Xi Jinping.
Et oui, Dani, trois ministres des Affaires étrangères chinois, indiens et russes réunis hier à New Delhi et la Russie qui presse l'Inde de s'aligner sur les routes de la soie chinoise. 4 ans après leur lancement, ce méga projet de 1000 milliards de dollars sur 65 pays trouve encore des alliés, on le voit, des alliés puissants et les premiers sont peut-être en Asie centrale. Bonjour Philippe Lecor.
Bonjour Xavier Martinet.
Et merci d'être de nouveau avec nous au téléphone depuis Boston. Vous êtes spécialiste de l'Asie bien sûr, chercheur à la Harvard Kennedy School et senior fellow au Carnegie Endowment for International Peace. L'Asie centrale, oui, et ses 5 pays ex-soviétiques qui constituent pour la Chine la ceinture de la soie au sein de cette One Belt, One Road, route de la soie, et plus particulièrement le Kazakhstan, pays le plus important de la région en population et en taille et partenaire historique de la Chine, mais surtout nœud le plus important de ces routes de la soie qui faisaient transiter près de 1300 trains par an vers l'Est en 2015 encore. Symbole, c'est la ville de Khorgos, où vous étiez il n'y a pas si longtemps, Philippe Lecor, ville frontière et point de passage de tous les réseaux ferroviaires et énergétiques quasiment de l'Asie centrale vers la Chine. La Chine qui, je l'ajoute, n'est d'ailleurs pas le seul partenaire du Kazakhstan ni de la région. La Russie est toujours présente économiquement et politiquement chez ses anciens satellites et ne compte pas perdre son influence. En tout cas, Philippe Lecor, le Kazakhstan, si on va parler de Khorgos, c'est quand même là que ces routes de la soie en 2013 ont été lancées. Donc le pays lui-même a une position privilégiée pour la Chine.
Oui, absolument. C'est à Astana, la capitale du Kazakhstan, que Xi Jinping, président chinois, a lancé au cours d'un discours à l'université Nazarbayev. Ce concept de Belt and Road, qui a d'ailleurs un peu changé de nom, maintenant c'est Belt and Road Initiative, c'est pas One Belt, One Road. Et donc ce pays est vraiment au centre de beaucoup de choses, y compris au centre de l'Asie centrale, puisque c'est le plus grand pays, comme vous le disiez, de la région, le 9e plus grand pays du monde, mais en même temps, économiquement, beaucoup plus petit que la Chine. On parle de 45 fois plus petit économiquement que la Chine. Paradoxalement, la Chine ne peut pas se passer du Kazakhstan, puisque les routes de la soie, enfin une partie des routes de la soie, la partie terrestre, doit passer par le Kazakhstan pour atteindre la Russie, l'Iran, le Caucase et beaucoup des pays qui sont visés. Vous parliez de 65 pays, mais maintenant la liste s'agrandit et le concept devient de plus en plus vague. Mais en tout cas, Khorgos est une ville fascinante parce que on sent bien, on voit ces steppes autour de nous, on voit ces déserts et le fait qu'il ne s'est pas passé grand-chose depuis quelques années. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle gare qui est en train d'être construite. Il y a ce qu'on appelle un dry port, un port sec, où ont été entreposés 18 000 containers. Comme vous disiez, il y a des trains qui se déplacent en permanence vers l'Europe, mais relativement peu pour l'instant. L'idée est d'augmenter et de passer par la mer Caspienne. Et puis, il y a également des commerçants qui viennent des deux côtés. Il y a une zone de plus en plus importante. On parle de 100 000 personnes dans la ville de Khorgos elle-même. Hein, donc une zone, si vous voulez, à cheval entre les deux pays. Bien entendu, la Chine s'est taillée la part du lion. On sent bien que ce sont les Chinois qui contrôlent, y compris d'ailleurs côté kazakh, hein, puisque les boutiques sont souvent gérées par des Chinois pour des Chinois. Mais en tout cas, le Kazakhstan caresse certains espoirs.
Et alors, c'est une ville qui est située au sud du Xinjiang, donc cette région de l'ouest chinois. Il y a une autre ville d'ailleurs qui sert également de porte d'entrée de ces routes de la soie, c'est Kashgar, qui se trouve au nord du Xinjiang. Quelle image est-ce qu'elle vous laisse, eu égard justement au développement de ces routes de la soie, cette ville de Khorgos, puisqu'elle a commencé à se développer vraiment à coup de gros investissements de Pékin autour de 2011-2012. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 80 000, 100 000 habitants. Vous le disiez, un certain nombre de commerces. C'est une ville de transit ou c'est une vraie ville, disons-le comme ça?
C'est une ville un peu artificielle. D'abord parce que les Chinois s'y entendent à merveille pour déplacer des populations du reste de la Chine, ainsi que des marchandises d'ailleurs, dans une nouvelle ville qui est une sorte de zone économique spéciale. Et puis côté kazakh aussi, le gouvernement veut profiter de cette manne qui est celle de la route de la soie terrestre. Et donc, il y a une zone économique spéciale qui est en train de se mettre en place. Bon, ça va prendre des années, mais ils cherchent, les Kazakhs, à faire venir des investisseurs, et pas seulement des Chinois, ce qui sera sans doute un petit peu difficile. Par ailleurs, il y a une sorte de poste frontière, si vous voulez, à travers lequel passent des milliers de Kazakhs tous les jours pour aller dans cette zone spéciale, une sorte de zone franche dans laquelle on ne paye pas de taxes, dans laquelle il y a des restaurants, des hôtels, des immeubles qui sont en train de sortir de terre. Et il y a un projet de ville nouvelle, si vous voulez, Kazakh, encore une fois, qui va être financé en grande partie par la Chine. Donc c'est ça le problème du Kazakhstan, c'est que, si vous voulez, au milieu de ce désert, personne ne va construire une zone économique spéciale, une zone industrielle ou un port sec, à part la Chine. Les Russes ne sont pas en mesure de le faire financièrement, par exemple.
Et alors justement, c'est un peu ça, une des grandes questions qui se posent pour les pays de la région, à savoir ces investissements chinois qui sont tournés en grande partie vers des infrastructures, est-ce qu'ils peuvent servir et dans quelle mesure à un développement économique réelle. Le Kazakhstan lui-même avait lancé un grand plan de relance de 9 milliards de dollars avec développement d'infrastructures qui s'appelait le chemin lumineux, développement plus ou moins conjoint avec le développement de ses routes de la soie. Est-ce qu'il arrive à s'en tirer de manière indépendante, plus indépendante que d'autres pays comme Tadjikistan et Kyrgyzstan qui ont déjà une dette très importante vis-à-vis de la Chine?
Le Kazakhstan aussi. Alors le chiffre n'est pas, il y a plusieurs chiffres qui circulent, mais on parle d'au moins 30 milliards de dollars. Certains vont jusqu'à 70 milliards de dollars pour 2017, hein, tout ce qu'on appelle les soft loans, c'est-à-dire les prêts avec des intérêts bas, si vous voulez. Donc le problème, c'est qu'effectivement, avec une population de 17,6 millions d'habitants, le Kazakhstan n'a pas un marché suffisamment attractif pour faire venir des investisseurs, à part la Chine, qui veut se servir essentiellement du Kazakhstan comme lieu de transit. Mais en même temps, si vous voulez, le gouvernement kazakh, qui avance lentement mais sûrement en direction de la Chine, ne veut pas non plus compromettre ses relations avec la Russie, puisqu'on est dans une zone où l'on parle russe, hein, on est dans l'ex-Union soviétique, mais il y a une population kazakh qui est extrêmement sceptique. On parle d'un sorte de contre-cycle, si vous voulez, le cycle de rapprochement avec la Chine, qui est celui du gouvernement, et puis il y a la population. Il y a eu des révoltes l'année dernière contre la privatisation de certains terrains qui auraient bénéficié directement à la Chine en différents lieux du Kazakhstan. Donc ça, si vous voulez, c'est un problème. L'opinion publique d'Asie centrale, et en particulier du Kazakhstan, se méfie de cette montée en puissance chinoise et du fait qu'elle va perdre beaucoup, si vous voulez, avec les produits chinois. Par exemple, il y a des études qui ont été faites, assez confidentielles, qui prouvent que les produits chinois, à 70 ou 80%, sont rejetés par les Kazakhstanis comme, si vous voulez, de mauvaise qualité.
Donc un Kazakhstan pas forcément convaincu, voire partagé, justement, entre Chine et Russie. Russie, sixième partenaire commercial du Kazakhstan, je crois. Pour terminer, si on parle, encore une fois, de ce Kazakhstan, peut-être comme modèle de l'influence plus large que pourrait avoir la Chine en Asie centrale. Ces pays, ces cinq ex-soviétiques, font partie également de l'organisation de coopération de Shanghai menée par la Chine. Est-ce que la Chine a de grands atouts pour réussir dans cette ancienne zone ex-soviétique, pour réussir, disons politiquement, un rapprochement peut-être plus étroit si on pense qu'elle voudrait stabiliser ou s'allier un certain nombre de régimes, comme elle essaye de le faire via cette organisation?
Il est clair que l'organisation de coopération de Shanghai est un peu le moteur de ce rapprochement sur le plan politique, avec maintenant l'Inde qui en fait partie. Vous faisiez allusion à la réunion des ministres des Affaires étrangères indiens, chinois et russes, qui n'a pas donné grand-chose, mais qui était plutôt symbolique. On parle, vous savez, du grand jeu qu'il y avait au 19e siècle entre la Russie et l'Empire britannique à l'époque. Aujourd'hui, c'est entre la Russie et la Chine. Et la Russie est tout de même assez méfiante. L'Inde, bien sûr, aussi veut sa part du gâteau et envisage de construire un port qui s'appelle Chabahar, qui concurrencerait un port pakistanais qui servirait également aux routes de la soie.
Oui, juste à côté de Gwadar, oui.
Oui, le port de Gwadar. Quant à l'Asie centrale, si vous voulez, il y a également les Occidentaux qui n'ont pas complètement perdu tout intérêt pour cette région, mais il est clair qu'on est dans une zone d'influence russe et que ça ne va pas changer. Et que donc, pour les Chinois, convaincre les Kazakhs, les Tadjiks et les Kirghizes de tout d'un coup devenir Chinois, ou en tout cas d'appartenir à une zone, je dirais, linguistique et politique qui n'est pas la leur, ça sera extrêmement difficile. Et je crois que donc l'argent ne va pas entièrement acheter les habitants de l'Asie centrale, même s'ils sont dans une position relativement faible, démographiquement et économiquement, puisque finalement ils sont dépendants des matières premières, du pétrole pour le Kazakhstan, ils n'ont pas grand-chose à exporter. Donc la Chine utilise cette région comme zone de transit. Mais finalement, même économiquement, vous avez une grosse partie des investissements chinois qui continuent d'aller aux États-Unis, en Europe occidentale, en Australie, etc., pas dans les pays de la route de la soie.
Voilà, un certain nombre de handicaps politiques pour la Chine en Asie centrale, on le comprend. On n'a pas évoqué non plus les problèmes sécuritaires actuels et puis sans doute à venir. En tout cas, le Kazakhstan deviendra l'état de transit sur lequel s'appuiera le développement commercial avec la Chine. C'est ce qu'a affirmé Nursultan Nazarbayev, le président du Kazakhstan, cette année encore. Merci beaucoup Philippe Lecor d'avoir été au téléphone avec nous, senior fellow au Carnegie Endowment for International Peace et chercheur à la Harvard Kennedy School de Boston. Merci.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Vous pouvez podcaster l'interview de Xavier sur les sites franceculture.fr.